L'association intercommunale d'information mutualiste et les Gaulois jardiniers organisent une manifestation ce samedi à Tarare pour demander un retour à une vie quasi normale. Avec nous pour en parler, Pascal Perrier, vice-président de l'association intercommunale d'information mutualiste.
La raison principale, c'est d'attirer l'attention de la population, alors évidemment de Tarare et de ses environs, l'attention de la population sur les conditions de vie de beaucoup d'entre nous qui sont des points de passage de notre vie sociale, qui sont aussi bien des commerces et aussi des organisations d'activités culturelles, les restaurants, les cafés. Tous ces gens-là qui sont à des points de rencontre de notre vie culturelle sont, bon, soit reçoivent quelques aides du gouvernement, soit en reçoivent si peu qu'ils sont aux abois, ils n'ont plus les moyens de payer leur traite, par exemple, etc. Et donc, attirer la population sur le cas de ces gens-là, mais qui nous concerne aussi, parce que on ne le sait pas, on n'en parle pas, les grands médias ne font pas beaucoup de battage là-dessus, mais la situation actuellement est profondément dégradée sur le plan économique et social. Voilà, donc on voudrait attirer l'attention de la population sur l'urgence qu'il y a à réagir, à finalement parvenir à se prendre en main, réactiver son propre jugement, parce que, comme on l'a vu il y a un an maintenant, on a vu qu'il y avait beaucoup de contradictions dans la gestion de cette crise au départ. Évidemment, le sujet de fond, hein, c'est la crise dans laquelle on est. Il y a eu beaucoup de contradictions et ensuite il y a eu beaucoup de sons divergents de la part de personnalités comme par exemple Raoult, qui est un épidémiologiste, bon, je ne sais plus exactement sa spécialité, mais qui est internationalement reconnu. C'est des sons de cloche qui nous sont arrivés, des bémols et de nombreux bémols qui ont été apportés à la gestion même de la crise gouvernementale, de la crise enfin gérée par le gouvernement. Il y a urgence à activer, réactiver son propre jugement en disant finalement, on ne peut pas, il n'est plus possible de s'en remettre à une poignée de personnes qui dirigent 67 millions d'autres personnes que nous sommes, la population, 67 millions environ de citoyens. On ne peut pas laisser continuer ces personnes à diriger de façon autoritaire, finalement, puisqu'il n'y a aucune prise en compte des avis, aussi bien, même si ce sont des experts, il n'y a aucune prise en compte des avis divergents de la politique qu'on a décidée. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'il nous semble urgent maintenant de sortir de cette crise. On ne peut pas y rester, il est absolument impossible d'y rester. Mais la situation dans laquelle on est, elle est proche de celle où était la Grèce pendant la crise grecque. Pendant la crise grecque, on n'a jamais voulu démordre, je parle de l'Europe, hein, de Bruxelles, on n'a jamais voulu sortir de ce taux de 3% de déficit. Aujourd'hui, on l'a explosé. Et pourtant, aussi bien la France que l'Italie sont dans une situation qui avoisine celle où était la Grèce. Mais aujourd'hui, il y a de l'argent.
Oui, alors vous avez beaucoup de revendications, de sujets à aborder ce samedi.
Ça fait énormément de choses à dire. Et malheureusement, il y a une chose importante, c'est la situation de l'hôpital public. Rien qu'avec ça, il y a de quoi, je ne sais pas, faire un sujet d'émission de radio. L'hôpital public, on peut regarder, on a Internet, on a les réseaux sociaux. Quotidiennement, on trouve des informations. On a par exemple sur Mediapart, ça date du mois de janvier. On prend simplement des courbes hein, qui sont accessibles à tout le monde. C'est des données qui proviennent de l'INSEE, par exemple. Hein. On peut voir l'évolution de la situation de l'hôpital public depuis, par exemple, 2014. On peut remonter à bien avant. On voit quoi ? Que cette évolution, on a l'impression que tout d'un coup, ça nous arrive dessus parce que cette crise est violente. Non, la situation de l'hôpital public, elle s'est dégradée. On a abandonné, on a réduit le nombre de lits, on a réduit les budgets de l'hôpital public, mais depuis des années, depuis peut-être une quarantaine d'années. C'est dans un programme global de désinvestissement de l'État dans ce qu'on appelle les services publics. Donc ça, c'est pas propre à l'hôpital public. Une des questions, pourquoi ce désinvestissement de l'État dans l'hôpital public, pourquoi est-ce qu'il s'est poursuivi pendant l'année 2020 où on a continué à supprimer des lits ? Il faudrait une émission complète pour parler de ça.
En résumé, vous dénoncez les conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire.
Disons que le motif profond, il est là et je vais essayer d'y revenir. Il y a beaucoup de gens en France qui sont dans une situation catastrophique, mais réellement catastrophique. La précarité, le chômage, la pauvreté, ils sont montés en flèche dans le pays. Alors évidemment, la bourse aussi est montée en flèche. Ça c'est des choses qu'il faudrait rapprocher pour que les gens se rendent compte qu'il faut insister pour reprendre une vie normale. On ne peut pas continuer comme ça, c'est mission impossible. Vous avez tout récemment le professeur Raoult, alors ça fait deux fois que je le cite, il n'y a pas que lui, il y a des gens comme Alexandra Henrion-Caude, mais Raoult qui est un expert, lui tout autant que les experts qui ont été nommés par le gouvernement, la différence c'est que lui il n'a pas de lien d'intérêt avec aucun laboratoire. Bon, cet homme, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que toutes les mesures qu'on a prises ne servent absolument à rien, mais absolument à rien pour ce qui concerne la Covid-19. Quand on fait des recherches, on s'en rend très vite compte. Attirer l'attention de la population sur ces faits-là, c'est évidemment ce qui nous motive, que les gens se rendent compte qu'on ne peut plus continuer dans cette direction, qu'il faut exiger, demander, insister pour que la vie reprenne. Ne plus supporter de voir des cafés, des restaurants, des lieux de vie, de relations fermés, le théâtre, le cinéma, tous ces lieux-là fermés, sans aucune, il n'y a plus aucun motif à conserver.
Oui, mais justement, pour ouvrir ces lieux, il faudrait un protocole quand même sanitaire strict. On ne peut pas mettre de côté cette épidémie. Un protocole sanitaire qui avait déjà été mis en place lors de la réouverture avant l'été, d'ailleurs.
Il y a ce fait-là, c'est-à-dire, les restaurants, les cinémas, ils ont proposé même d'aller au-delà des mesures qui étaient imposées ou, disons, décidées par le gouvernement. Mais même dans ces conditions, on leur a refusé l'ouverture. Sur notre affiche, on a ça, on a deux images, l'image d'un métro bondé, ce qui est le cas, ça a beau être une image dessinée, c'est le cas. Et puis l'image d'une salle de cinéma vide. Je trouve que ça illustre bien les contradictions dans lesquelles on se met avec toutes les mesures qu'on impose. Mais il faut voir l'arbitraire des mesures. On parle d'un mètre, 1,50 m, on parle de 8 personnes, de 6 personnes, de 10 personnes. On n'en sait rien, honnêtement. Un virus, je m'écarte un peu, mais actuellement, le comité d'experts, ces gens-là, ils sont pas d'accord sur quel est leur point de désaccord. Alors, il y en a une partie qui disent qu'il faut arriver au virus, à zéro virus, ce qui est une aberration complète. La planète Terre, on trouvera pas un endroit à moins de se mettre tout sous cloche. Et encore, des virus, on en a dans le corps, comme on a des bactéries. Il y a une frange qui veut aller jusqu'au zéro virus. C'est-à-dire, il faudrait confiner toute la population chez elle. C'est même impossible, de toute façon, il n'y a pas de « il faudrait ». Bon, voilà, on en est là à tâtonner, à aller dans un sens et puis à revenir en arrière. De toute façon, on a des éléments de comparaison. On a par exemple la Suède. Alors c'est bien parce que dans une expérience scientifique, il faut toujours avoir un élément témoin. Là, on a la Suède. Et la Suède, ils n'ont pas pris de mesures par décret. Ils n'ont pas obligé la population à ceci ou cela. Ce qui me revient, ce que je voulais simplement dire tout à l'heure, et ça c'est l'IFRAP, donc c'est un observatoire des politiques publiques qui est d'utilité publique, l'IFRAP. Il nous montre simplement que plus les pays qui ont confiné de façon la plus stricte sont les pays où le taux de mortalité a été le plus élevé. Si vous regardez les courbes, et ça c'est l'INSEE, si on regarde l'évolution de la courbe de mortalité, parce que c'est ça qui est intéressant seulement, et on voit que les deux confinements qu'il y a eu, donc l'année dernière, en 2020, le taux de mortalité, il a grimpé durant chacun de ces confinements. La courbe, elle est montée, elle est redescendue ensuite, elle est montée à chaque fois qu'on a eu un confinement. Ce qui confirme ce que dit l'IFRAP, les pays qui ont confiné le plus strictement sont ceux dont le taux de mortalité a été le plus élevé. La gestion de cette crise, elle nous fait douter énormément. On a commencé à compter les morts. Et puis après, on s'est mis à compter le nombre des consultations en urgence, ensuite les taux d'occupation, ensuite le nombre de personnes malades, ensuite le nombre de personnes testées positives. Or, on est abreuvé de chiffres, on est même noyé sous les chiffres. Mais au fond, et c'est pour ça que l'INSEE est intéressante, si on parle uniquement de taux de mortalité, on peut se comparer à toutes les années précédentes et on voit que effectivement, en 2020, on a eu une évolution plus importante, c'est-à-dire une surmortalité par rapport à l'année précédente, à 2019. Mais si on regarde les années en arrière, on voit que ce taux de mortalité, il ne cesse d'augmenter. Au moins depuis 2010, on voit que la tendance est toujours à la hausse en mortalité. Voilà, la population augmente et le taux de mortalité augmente aussi.
Vous êtes sur RVR et vous écoutez Pascal Perrier, vice-président de l'Association intercommunale d'information mutualiste concernant l'organisation d'une manifestation pour un retour à la vie normale ce samedi à Tarare. Pascal Perrier, il faut mettre des contraintes pour quand même lutter contre cette épidémie.
Alors,
on ne peut pas laisser faire.
C'est en tout cas ce qu'on nous impose. Toutes les mesures qu'on nous a imposées, on ne les a pas imposées partout. Par exemple, comme je vous disais, en Suède, on n'a rien imposé. Mais aujourd'hui, on a des pays voisins qui sont dans des situations sanitaires très proches de nous. On a l'Italie, on a l'Espagne. Ces gens-là, ils ont réouvert, pas en totalité, toute la journée, mais ils ont réouvert les restaurants, les cafés. Alors, les lieux culturels, je ne sais pas. Mais pour dire que c'est une question politique ou c'est une question sanitaire, c'est une question de science ou c'est une question d'organisation politique de la société. C'est tout mêlé, et on voit que finalement, la politique qu'on tient en France, par exemple, on peut vous dire 1 mètre ou 1 mètre 50 le pays d'à côté, ou 2 mètres le pays suivant, ou 200 mètres, comme dit Raoult aujourd'hui. Il y a un côté arbitraire, puisque au fond, personne ne peut dire précisément ce qu'il faudrait faire. Mais moi, j'entends ce que vous me dites, et vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, si on dit il faut tout arrêter, il faut reprendre une vie tout à fait normale et tout ira bien, et ça, j'en suis persuadé. Mais bon, admettons qu'on le fasse avec une progression, si vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, une salle de théâtre, une salle de cinéma de 200 personnes, eh ben, admettre, je ne sais pas moi, même 50 personnes, même 60 personnes.
Oui, voilà, adapter en fonction, par exemple, de la taille d'un lieu, ça pourrait être une solution, adapter le nombre de personnes en fonction de la taille d'un lieu.
Voilà, mais pas seulement. C'est-à-dire, par exemple, vous allez dire, la première semaine, eh ben, on va faire un taux d'occupation, par exemple, d'un théâtre, d'un cinéma, on va prendre un taux d'occupation même de 30 ou 40%, d'accord? Et puis, vous faites ça pendant une semaine. La semaine d'après, eh ben, vous augmentez ce taux. Hein, vous passez par exemple de 40 à 60 et ainsi de suite. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de cluster, il n'y aura pas tout d'un coup d'explosion d'un taux de mortalité qui va se mettre à grimper. Non, non, pas du tout, ça va s'arrêter. Toutes les épidémies, c'est-à-dire, on n'est pas, notre civilisation, elle ne date pas d'hier, elle a des milliers d'années. Toutes les épidémies, elles ont la même courbe de croissance et puis elles finissent par disparaître. Toutes les années, il y a une grippe qui arrive. Voilà, elle arrive, elle repart. Donc, admettons, pour rassurer la population, pour rassurer tous ceux qui le souhaitent, eh ben, faire cette progression. Par exemple, cette histoire de taux d'occupation. Je vous assure, même en Belgique, la vie n'est pas la même qu'ici. En Hollande, on a arrêté le couvre-feu en Hollande. On n'est pas obligé de mener la politique qu'on mène. Et il faut être, alors, si on veut être pragmatique, ben, soyons-le. Allons-y un peu plus doucement, mais donnons-nous un projet de dire, comme les Anglais viennent de le faire, ils viennent de dire, je crois, c'est début juin, on est revenu à la vie normale, on se donne cet objectif. En attendant, voilà, on se fixe ces étapes et on se dit, pendant le 1er juin, la vie reprend complètement, oui. Enfin, autant qu'elle le pourra, parce que les gens qui sont surendettés, les gens qui ont versé dans la pauvreté, qui n'ont pas pu payer leur loyer, etc., qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? En attendant, c'est maintenant qu'il faut décider ce qu'on va faire pour tous ces gens-là, parce qu'on se retrouve dans une situation de crise, bon, elle est plus sanitaire là, elle est économique et sociale, très très grave quoi.
Par rapport à cette crise sanitaire, à toutes ces mesures qui sont mises en place, voilà, vous parlez un peu de danger, mais pour vous, est-ce que la démocratie vraiment est en danger avec cette crise sanitaire et ces mesures qui en découlent ?
Malheureusement, notre démocratie française, elle n'est pas en bonne santé. On peut dire qu'elle n'est pas en bonne santé et l'architecture de la Ve République ne fait rien pour arranger les choses. Puisque c'est une architecture, comme je disais, qui a été faite sur mesure pour quelqu'un comme De Gaulle. Le problème, c'est qu'elle a des défauts. Elle peut permettre au président de la République quasiment de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. c'est à la base une démocratie dans laquelle il faudrait remettre un petit peu des fondements de notre constitution française. Si vous prenez la constitution sous laquelle on est actuellement, vous verrez qu'il y a des articles, mais essentiellement au début de la constitution, des articles sur le président, la fonction du président de la République. C'est impressionnant, toutes les prérogatives, toutes les possibilités qu'on donne à ce personnage de notre État. Ce qu'on a vu durant la crise sanitaire, étant donné ce que permet cette constitution de la Ve République, c'est non seulement de pouvoir qu'une personne puisse décréter l'état d'urgence, ça c'est déjà un phénomène grave, mais qu'on puisse gouverner le pays à travers un conseil de défense, il ne faut pas oublier, le général de Gaulle, il a dû réunir le conseil de défense 4 fois dans sa carrière. Emmanuel Macron, il doit en être à 100 fois. On ne peut pas gouverner un pays de cette façon-là. On n'est plus dans une démocratie, on est dans un régime autoritaire. Il faut le dire, c'est même pas une question de point de vue. D'un point de vue strictement juridique, on est dans un système autoritaire. On ne peut continuer comme ça, ni pour des raisons sanitaires, ni pour des raisons politiques. Moi, je comprends parfaitement votre question. On ne peut pas désolidariser ces deux aspects de la crise où nous sommes. Et si on avait eu un fonctionnement plus démocratique à l'origine de cette crise, peut-être qu'on s'en serait mieux sorti du fait qu'on aurait donné la parole à des gens, aussi bien des experts, qui ont un discours tout à fait scientifique aussi. On aurait aussi donné la parole à ces gens-là et il y aurait eu un débat et des mesures auxquelles la population aurait pu participer. Alors que là, on a beaucoup et on est toujours dans une situation de soumission à des directives qu'on nous donne une fois c'est 18h, après c'est 22h et on revient en arrière et on ne voit pas où est l'aspect démocratique dans la prise de ces mesures.
Vous avez parlé 2 ou 3 fois du professeur Raoult, mais lui aussi, dans cette crise, il n'a pas tout bien fait. On peut parler notamment de la chloroquine.
Si vous voulez, ça aussi, ça pourrait demander une émission complète, cette histoire de chloroquine. La chloroquine, ça fait à peu près 70 ans que ce remède existe, qui est utilisé dans le monde entier. C'est un remède qui est tombé dans le domaine public, donc qui coûte 3 fois rien. Pour comprendre ce qui s'est passé avec la chloroquine, il faut faire une petite enquête. C'est quasiment une enquête qu'il faut faire. Si on prend les choses, alors on peut les prendre chronologiquement. La chloroquine est interdite subitement. C'est Agnès Buzyn qui prend cette décision, déclarée comme substance vénéneuse. Écoutez, il n'y a aucune étude qui a pu permettre de corroborer cette décision. En revanche, un scandale qui a éclaté sur le Lancet qui était une référence internationale en matière de publication scientifique, le Lancet a fait paraître une étude complètement bidonnée sur la chloroquine. Malheureusement, on n'en a même pas tenu compte. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on a eu le condamné chloroquine qui a été condamné sans aucun jugement. On avait mis en place, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le printemps dernier, des projets d'études pour vérifier si ce remède pouvait être utilisé pour la Covid-19 ou pas. Ces études ont été complètement abandonnées, c'était des études décidées par le gouvernement, ont été complètement abandonnées dès que la publication du Lancet a eu lieu. C'est-à-dire que le Lancet dit la chloroquine, je résume, le Lancet nous dit dans une publication, la chloroquine, ça vaut rien du tout. Et les études qu'on avait lancées en France sur la chloroquine pour savoir si ça pouvait être utilisé pour la Covid, elles s'arrêtent instantanément. Après, on apprend que cette publication sur le Lancet était complètement bidonnée. Elle ne vaut absolument rien. Est-ce que les études qu'on avait lancées sur la chloroquine reprennent ? Non. Par contre, on s'aperçoit que les experts qui ont été choisis par le gouvernement, parce qu'il y avait un comité d'experts sanitaires, ça existait déjà avant la crise, ce comité d'experts, on n'en a pas voulu, le gouvernement en a choisi un autre. Bon, il a choisi ses experts. Or, il y en a un nombre, c'est à peu près 30% de ces experts nommés par le gouvernement, désignés, qui sont en lien d'intérêt avec les laboratoires, et notamment avec le laboratoire américain Gilead. Gilead qui fabrique le remdesivir. Et on a évincé donc la chloroquine, un médicament vieux de 70 ans environ. On a évincé la chloroquine au profit du remdesivir fabriqué par Gilead. Comment se fait-il que ce remdesivir a obtenu une autorisation de mise sur le marché, alors que peu de temps après, on a été obligé de le retirer, parce que ses effets étaient tellement graves que c'était flagrant. Il y a des remèdes qu'on met 10 ans à éliminer, parce qu'ils ont des effets indésirables, peut-être un peu moins flagrants. Mais là, c'était tellement flagrant qu'il a fallu le retirer aussitôt. Le remplacer par quoi ? Rien du tout. On n'a pas rétabli la probité, si on peut dire, de la chloroquine. La chloroquine fonctionne. Raoult l'a dit, a dit qu'elle fonctionnait. Elle ne fonctionne pas lorsque la personne est dans au dernier degré de la maladie, je veux dire dans la phase la plus aiguë. Il l'a dit, il l'a répété. Mais il y a d'autres substances qui sont efficaces par rapport à la COVID-19. On nous a maintenu dans cette idée que il n'y avait aucun remède qui marchait avec cette maladie. Ce qui est faux. Et Raoult, je ne comprends pas, on n'a pas les mêmes informations. J'ai suivi sa position, elle n'a pas varié depuis le début de l'épidémie, cet homme-là.
À l'instant sur RVR, c'était Pascal Perrier, vice-président de l'association intercommunale d'information mutualiste. La manifestation a lieu ce samedi à partir de 10h, place de la Madeleine à Tarare. D'ailleurs, une pétition intitulée « Notre vie doit reprendre ses droits, c'est essentiel » est en ligne sur change.org.